Il n'écoute pas. Chez le garçon, à cet âge, la zone du langage est moins connectée avec le passage à l'action que chez les filles. L'ado a entendu lorsque vous lui avez demandé de sortir la poubelle alors qu'il jouait à la console, mais ne pense pas qu'ils doivent le faire maintenant. La zone du langage peut traiter ce qu'a dit le parent. Il répond donc « oui, oui », ce qui signifie qu'il a compris la phrase sans que cela déclenche une action. En fait, un ordre inhibe la zone de la responsabilité personnelle. Ce n'est donc pas qu'il n'écoute pas, il est souvent capable de répéter ce que nous avons dit, mais comme nous avons donné un ordre et ou prononcé toute une phrase, son cerveau préfrontal est mis hors service. Autre problématique, on constate que les hommes ont tendance à avoir une moins bonne ouïe que les femmes. Et il semble que la pollution chimique de l'environnement aggrave ce phénomène. Évidemment, pour les deux sexes, les écouteurs et les teufs avec la musique à fond n'aident pas. Un ado sur cinq connaît une perte auditive entre 12 et 19 ans, surtout chez les garçons. Pour lui demander quelque chose, j'obtiens d'abord son attention. Je m'approche, je le touche. Quand il me regarde, je mobilise son cerveau préfrontal en évitant les grandes explications. Le moins de mots possible ou une question ouverte mobiliseront son cerveau préfrontal. Il arrive aussi que le parent attende une action immédiate sans tenir compte du fait que l'ado est au milieu d'une action importante pour lui. Nous n'avons pas les mêmes priorités, c'est un fait. Si un jeu vidéo nous paraît futile, perdre un niveau revêt à ses yeux un intérêt qui nous échappe mais n'est pas moins à respecter si nous désirons qu'il nous respecte en retour. Les punitions restent sans effet. Vous n'en pouvez plus, vous criez sur votre fils, « Je t'avais prévenu, plus de sorties, plus de copains avant le prochain bulletin. » Quand tu m'engueules, je me sens mal. Je vois bien que tu ne m'aimes pas. À partir de 13 ans, son gyrus singulaire antérieur, une structure du cerveau préfrontal, est fonctionnel et lui permet de modifier son comportement après avoir pris conscience d'une erreur. Mais la punition est-elle une solution? Non seulement elle s'adresse au comportement et non à ses causes, mais les études montrent qu'elle diminue le sentiment de responsabilité et ne permet pas d'apprendre des conséquences naturelles de ses actes. Ces erreurs sont des errances productives. Notre rôle est d'accompagner notre ado dans la prise de conscience des conséquences de ses actes en restant résolument à ses côtés. « Regarde-moi dans les yeux, pourquoi as-tu fait ça ?» peut avantageusement se transformer en « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Un problème, un souci. Plutôt que de forcer la porte de son cœur, laissons-lui l'initiative de venir vers nous en gardant notre porte ouverte. Observons nos propres tendances à nous fermer, à éluder ou à contrôler en expliquant ou en monopolisant la parole dès que la discussion avec l'ado devient trop émotionnelle ou que nous avons l'impression qu'il nous confronte ou nous provoque. Elle lève en permanence les yeux au ciel. Je sais, tu as toujours raison et moi toujours tort. Nos enfants sont devenus grands, mais aussi plus sensibles. On pense parfois notre ado blindé contre les jugements parce qu'il arbore un air distant. Faux. Donner notre avis, conseiller, expliquer, faire la morale, chercher à convaincre, répéter, poser des questions type « Tu as fini tes devoirs ?» sont des interventions contrôlantes. Or, si aucun humain n'apprécie d'être dirigé, pour l'adolescent qui cherche à sortir de l'enfance, c'est insupportable. Son regard part dans le vague ou plonge vers un écran. Elle textote pendant qu'on lui parle ou lève les yeux au ciel. Son cerveau tente ainsi de canaliser le stress éprouvé. Il ne participe pas aux tâches de la maison. Entre 13 et 15 ans, ils parviennent à se souvenir d'une multiplicité de bribes d'informations, mais jongler avec des parcelles d'informations diverses, les organiser dans un but stratégique en vue d'une action coordonnée demande des compétences de multitâche qui se développent entre 16 et 17 ans. Débarrasser la table et la nettoyer, Ranger et passer l'aspirateur, ça n'a l'air de rien. Mais les tâches ménagères mobilisent davantage de compétences qu'on ne le croit. Aider n'est pas valorisant. Les ados sont faits pour les grandes tâches. Il aura plus de facilité à faire toutes les vitres de la maison que chaque jour nettoyer le lavabo. De plus, si on lui demande d'aider, il risque d'aider, c'est-à-dire de faire ce qu'on lui dit de faire, point. Sans réfléchir, sans se sentir responsable, donc sans apprendre. Un ado peut participer librement aux tâches, surtout si ces dernières ont été intégrées à la vie familiale. Les routines bien enracinées depuis l'enfance devraient lui permettre de continuer à faire ce qu'il a toujours fait. Chacun met son assiette dans le lave-vaisselle, le linge dans le panier à linge. Si un ado refuse carrément de participer aux tâches, ce peut être que notre relation n'est pas au top. Auquel cas, l'urgence est à la restauration du lien plutôt qu'à l'exigence ménagère. Ce peut être aussi que dans le passé, nous avons contrôlé, donné des ordres, exigé ou promis des récompenses. Maintenant qu'il a grandi, il réagit à ce pouvoir sur lui. Si c'est le cas, rien n'est perdu. Mais il a besoin d'une bonne dose de liberté avant de pouvoir croire de nouveau que ses décisions de participer à la vie familiale sont bien les siennes et non de la reddition. Avec les ados, les contrats fonctionnent plutôt bien. Ce sont des engagements mutuels. Attention, n'ayons pas l'illusion que l'ado va suivre sa partie du contrat sans qu'on la lui rappelle. Le contrat est respecté ? Je souligne les compétences que l'ado aura manifestées et surtout ce que cela apporte à la famille. Sans excès, car des compliments trop appuyés deviennent blessants. Le contrat n'a pas été respecté ? Il était peut-être irréaliste. Je m'excuse auprès de l'ado. Surprise ! Nos excuses devraient déclencher sa responsabilisation. Eh oui, les enfants nous imitent. Petit plus. Si nous exprimons notre désarroi face à un amoncellement de tâches, il se pourrait bien que nous rentrions un soir et que tout soit fait. Il conteste tout et veut avoir le dernier mot. Il argumente sans cesse sur tout. Il semble qu'il veuille toujours avoir raison. Son problème ? Il a besoin de prendre son envol, de se séparer de ses parents. Il ne peut donc être d'accord sans se sentir diminué. Plus il est stressé, plus son cerveau le pousse à poursuivre la bagarre. L'enjeu de la dispute est d'avoir raison, plus que l'objet sur lequel elle porte. Évitons de le pousser à dire des choses disproportionnées qu'il pourrait regretter par la suite. Si nous sommes en désaccord avec ce qu'il dit, nous pouvons toujours trouver un grain de vérité ou utiliser la technique du « oui » et, en évitant bien sûr toute ironie. Au lieu de nous opposer, nous commençons notre phrase de réponse par « oui ». Puis, nous ajoutons notre propre idée. Pas de souci s'il n'y a pas de rapport. Le cannabis, c'est trop cool. Oui, et ça amoindrit la mémoire. On peut même ajouter « c'est vrai » et « ou « tu as raison » avant d'ajouter notre vision. Il me parle mal. À la fin d'une dispute, votre enfant s'emporte et vous lance « T'es nul, tu vis une vie de merde. » Tu me manques, tu n'es jamais vraiment là. » Ses nouvelles capacités de relativisation lui font réaliser que ses parents ne sont pas les dieux qu'il imaginait. La déception est grande. Les parents deviennent des gens réels, avec leurs limites. Il nous en veut de ne plus être des super-héros. Comme nous, adultes, n'éprouvons plus cette impulsion à la socialisation, cette attirance pour l'intensité, ce goût du risque, les ados nous regardent comme ignorants des vraies choses de la vie. Utiliser notre pouvoir d'empathie permettra à l'adolescent de calmer son amygdale et de mesurer que le lien n'est pas rompu, même s'il se montre agressif envers nous. Relativisons leurs accusations. Et écoutons. Ce peut être aussi le moment de nous poser des questions. Sommes-nous restés fidèles à l'ado que nous étions ? Avons-nous accompli nos rêves d'enfant ? Sommes-nous aujourd'hui celui que nous avions projeté d'être ? Si pas encore, pourquoi ne pas profiter de cet élan adolescent ? Elle est maladroite. Je me cogne partout, je ne fais pas exprès. Les choses ne sont pas toujours à la distance à laquelle je les vois. Et je ne maîtrise pas tout dans mon corps. Du fait de la rapidité des modifications de leur corps, et donc de la représentation interne de celui-ci, le schéma corporel, les adolescents peuvent manquer de coordination le temps que s'intègre nouvelle image de soi et conscience corporelle. La proprioception, c'est-à-dire la sensation du corps propre et la représentation de soi dans l'espace, intègre les informations kinesthésiques, sensation de mouvement, labyrinthique de l'oreille interne, équilibre, et du système visuel. Cette intégration sensorielle peut être perturbée par le stress, par l'insécurité. Tout ce qui sollicite en même temps le mouvement, l'équilibre et la vue sert la proprioception. Le schéma corporel s'intègre aussi par les sensations tactiles. Or, les adolescents sont moins manipulés, moins caressés, moins câlinés par leurs parents. C'est comme si leur corps grandissait sans rencontrer de limites. Y aurait-il des facteurs de stress dans sa vie en ce moment ? Conflits entre les parents, deuil, déménagement, naissance d'un petit frère, perte d'emploi d'un parent ? Cela paraît n'avoir rien à voir avec le fait de casser un verre. En réalité, l'expression des émotions aide à traverser les situations difficiles et à ne pas accumuler les tensions. Vision et surtout capacité de convergence sont à tester. Équilibre, droite, gauche. Comment se débrouille-t-elle ? Le mouvement facilite l'intégration sensorielle. Tous les sports seront utiles, particulièrement les arts martiaux, la natation, la danse et l'escalade. Et pourquoi pas de bons massages, avec de grands mouvements enveloppants de la tête aux pieds jusque sur le bout des doigts pour l'aider à sentir les limites de son corps. Cela nourrit son système sensoriel et le lien. Elle perd pied dans les apprentissages. De toute façon, je suis nulle. Et puis ça ne sert à rien, les maths. Ses notes chutent, elle est démotivée. Le jugement d'un enseignant peut peser lourd et bloquer son cerveau au point qu'elle ne comprend plus les choses les plus simples. C'est l'effet Pygmalion, mis en évidence par Rosenthal. Voici l'expérience. L'ensemble des élèves passent des tests de QI. Les résultats fuitent et arrivent aux enseignants. À la fin de l'année, les élèves sont retestés. Pas de surprise, les meilleurs sont restés les meilleurs. Les élèves dont le QI avait été noté comme très élevé ont non seulement augmenté leur performance scolaire, mais également leur score au test d'intelligence. Mais la fuite des informations était organisée, et les notes de QI portées à la connaissance des enseignants distribuées au hasard. Ce qui signifie que les élèves ont eu des résultats correspondants aux attentes des professeurs. C'est le regard de l'enseignant qui a dopé les résultats des uns et en a noyé d'autres. Un prof l'a prise en grippe et la juge ou la met à l'écart ? Son cerveau fonctionne moins bien. De quoi relativiser le bulletin ? D'autant qu'il a été démontré que bien des facteurs indépendants du travail de l'enfant présidaient à l'attribution d'une note. Un enseignant la harcèle, la terrifie, la juge ? Pour l'aider à reprendre son pouvoir personnel face à cet enseignant, on peut lui proposer de le dessiner et de le redessiner feuille après feuille, et encore, jusqu'à ce que le dessin ait forme humaine. Qu'on n'y trouve plus trace d'agressivité, preuve que l'ado est désormais sûr d'elle. Elle pourra ensuite faire face à l'enseignant avec assertivité et sans se dévaloriser. Il oublie tout. Se souvenir que ses affaires de sport sont dans son sac, qu'elles sont humides, penser à les en sortir et les mettre dans la machine à laver pour qu'elles soient propres et prêtes pour le prochain cours de sport nécessite des capacités d'organisation, de planification et d'anticipation dont il n'est guère équipé à 14 ans. Tous les ados oublient beaucoup de choses, les garçons particulièrement. Pour une part, parce que leur cerveau n'est pas encore totalement câblé et que ce câblage s'effectue différemment chez les filles et chez les garçons, sans que cela indique une quelconque supériorité d'un sexe sur l'autre. Et d'autre part, parce qu'ils se conforment inconsciemment au stéréotype social. Car c'est une réalité partagée. Les adultes ont tendance à s'attendre à ce que les garçons ne fassent pas attention à leurs affaires. Entraîner plutôt que gronder. avant qu'il ne lâche son sac à terre, un seul mot émis sur un ton chaleureux, « lave-linge » ou « sport ». En opérant ce rappel, nous l'aidons à mobiliser son cerveau préfrontal. Et surveillons-le attentivement pour le surprendre lorsqu'il pense à ses affaires. Car oui, cela arrive bien plus souvent que nos préjugés ne nous le laissent à penser. Des descriptions comme « tu as récupéré ton sweatshirt sur le banc avant de partir » nous permettront tant de renforcer son attention que de modifier notre jugement sur lui, entraînant un nouvel effet Rosenthal.